Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de René Chouet, réalisé le 25 mai 2009.
Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 25 mai 2009 à Périgueux, René Chouet. Monsieur Chouet, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Oui, c'est... Mais voilà, je suis né le 29 mai 1924 à Périgueux, d'une mère qui faisait des ménages, des lessives, bref, qui faisait un peu de couture aussi, d'un père ancien vigneron, qui avait fait 3 ans de service militaire avant que la guerre de 14-18 ne se déclare et qui en a fait 4 de mieux. Et donc, par conséquent, qui est rentré jeune et qui en est sorti à 27 ans de la guerre, mais fragilisé physiquement et qui ne convenait, et qui a ensuite, comme il n'avait pas de formation professionnelle, évidemment, a été contraint pour vivre, de travailler dur, et d'exercer des professions qui convenaient guère à son état physique. Alors, à tout cela, bien sûr, comme c'était des gens très pauvres, il fallait ajouter la culture de jardin pour améliorer le quotidien. Donc, par conséquent, voilà, je suis né dans ce milieu très, très pauvre, quoi. Non seulement pauvre, mais vivant dans un appartement de 2 pièces, où il y avait une cuisine, une chambre, sans électricité, donc lampe à pétrole, sans eau, l'eau au coin de la rue, les WC au fond de la cour, des WC à la turque. Bref, tout de suite, on voit le milieu pauvre. Je dis pas misérable, en ce sens que intellectuellement, les choses étaient bien, saines, mais vraiment, vraiment la pauvreté. Et nous, dans ce contexte-là, on n'était pas les seuls, c'est pas la seule famille. Il y avait 5 ou 6 familles qui vivaient dans les mêmes conditions. Donc, si vous voulez, dans un milieu très solidaire, parce que des gens capables éventuellement, comme tout le monde, de s'engueuler éventuellement. Mais par contre, dès que quelqu'un était malade ou était dans les difficultés, tous les autres étaient là pour les soutenir. Donc voilà un peu le contexte. Autre chose, ces gens pauvres, non seulement ils étaient solidaires entre eux, mais je vois même au sein même de la famille, mon père avait une sœur qui avait 2 enfants. Elle s'est suicidée, son mari aussi, et pour que les enfants n'aillent pas à l'assistance publique, qui avait une très mauvaise réputation à l'époque, évidemment ils ont accepté de prendre ses enfants. C'est-à-dire que comme j'avais une sœur qui est à 1 an de moins que moi, on s'est retrouvés donc par conséquent les 2 filles couchaient ensemble, moi avec mon cousin et les parents, et tout ça dans la même chambre. Si bien que je me demande quelle vie intime ont eu mes parents. Mais c'est pour situer le cas, quoi. Milieu très pauvre, mais qui partage, qui est très solidaire et tout ça. Voilà. Quand on se retrouvait en famille, évidemment, j'avais des oncles qui avaient fait la guerre 14-18 et bien sûr, les anciens, systématiquement, parlaient de la guerre 14-18, le fort Verdun, le fort de Douaumont, les tranchées, les Boches, enfin, la guerre, les souffrances terribles. Et nous, on écoutait là, les gamins. Évidemment, en grandissant, on se disait, mais là, ils poussent un peu, il y en a marre de leurs vieilles histoires. Au fond, malgré tout, ils nous inculquaient un peu la haine des Allemands, qu'on appelait les Boches, bien entendu, mais aussi beaucoup le sens de la patrie, l'amour de la patrie, et la nécessité, éventuellement, quand elle est attaquée, de la défendre jusqu'à en mourir. Voilà, si vous voulez, c'est un peu le canevas, quoi. Alors ensuite, là, je suis évidemment un gamin. Sur le plan scolaire, je vais à l'école primaire à Saint-Georges jusqu'au certificat d'études que j'ai eu à 11 ans et je vais ensuite à la professionnelle, c'est-à-dire aujourd'hui le lycée Albert Claveil, et cela pendant 2 ans. Ensuite, évidemment, c'est la vie active. D'abord, dans un atelier où l'on fabriquait les lettres de l'alphabet destinées aux inscriptions sur les couronnes mortuaires, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était ainsi. Puis le terrassement, l'appel, la pioche, je connais, puis la maçonnerie, ces jeunes hommes italiens qui avaient fui Mussolini, enfin apprenti plâtrier chez un artisan périgourdin, qu'outre le métier, m'a appris que c'était la conscience ouvrière, ce qu'était la conscience ouvrière, à une formule que plus de maintenant, plus de 60 ans après, 60 ans passés n'ont pu effacer. Un ouvrier consciencieux et juste ne craint pas l'effort de son torse robuste, il sait que ce qu'il doit, c'est un travail bien fait. Et ce type-là m'a marqué considérablement parce que, comme j'adorais ce métier de plâtrier, des fois j'embauchais avant l'heure pour faire des gâchés, pour attaquer des cloisons, des choses comme ça. Et lui, quand il arrivait, il avait vu le travail, il prenait sa règle, il la posait, si c'était pas droit, avec sa truelle, il me foutait tout en l'air. Donc j'en pleurais de rage, mais en même temps, il formait à une conscience professionnelle. Voilà. Et au fond, ce dicton, c'est devenu un peu la règle de ma vie, quoi. Et j'ai essayé de m'en inspirer constamment. Ensuite, sur le plan sportif, dès 13 ans, je joue au football, d'abord dans une équipe qui a été éphémère, dans le quartier Saint-Georges sur Périgueux, ensuite à l'Union sportive périgourdine, et ça se jouait sur le terrain de Boulazac, près de la rivière de Lille, et ensuite au Copeau, où là j'ai joué dans les juniors du Copeau, où on a été champion de la Dordogne, voire du centre-ouest, et ensuite, bien entendu, ça a été dans la réserve. Et c'est là où ma foi... Tout commence et tout finit, c'est-à-dire que là c'est la guerre, et là c'est la consternation. Pour moi, je reçois l'armée française, qui avait la réputation d'être une des armées les plus fortes du monde, puisse être balayée en rien de temps. Pour moi, ça a dépassé l'entendement. Comme malgré tout, j'avais pas de conscience politique, je m'expliquais pas les événements. Ce que j'avais entendu, c'est mon père, mais qui était, compte tenu de tout ce qui est de cette vie dure et tout ça, était plutôt un peu anarcho-syndicaliste, disant que pour régler les problèmes, il fallait prendre les manches de pioche. Enfin, voilà, bon. Qu'est-ce que j'avais pu entendre du point de vue politique? J'avais entendu le nom de Maurice Thorez. Et je savais que le Parti communiste, j'avais entendu aussi que le Parti communiste, c'était le parti de la classe ouvrière. Donc, par conséquent, comme j'étais un ouvrier, si à l'époque j'avais dû voter, il est probable, ce qui n'est pas une certitude, que j'aurais voté. Mais ça se bornait là. Et quand la catastrophe arrive, de la défaite de la France, je suis vraiment bouleversé. Et quand Pétain... par contre, je ne m'explique pas Munich, etc. Ça, le pacte germano-soviétique, j'en entends parler, mais je comprends pas ce qui se passe là. Mais quand Pétain appelle à la collaboration, à accepter l'occupation et tout ça, alors là, pour moi, ça a été la révolte. J'ai pensé à l'époque comme quoi. J'étais loin des réalités politiques, j'ai pensé que le peuple de France allait se soulever. Et je me rappelle que sur un chantier, j'avais trouvé ce qu'on appelle un point américain. Et je l'avais pris pensant qu'effectivement, ça allait se battre. Et j'avais pris ce point américain pour aller me battre avec le peuple, pour lutter contre Pétain. Et tout ça, évidemment, c'était un rêve, quoi. C'était déconnecté de la réalité. Alors là, à partir de là, c'est pour vous dire, politiquement, moi, je à cette époque, voilà, pour moi, il y a un critère, c'est la France, c'est la patrie. C'est aussi la République, parce que je me souviens, on avait des instituteurs à Saint-Georges qui avaient eux aussi fait la guerre de 14. Et ces gens-là, non seulement... nous avait inculqué l'amour de la patrie, y compris de se battre jusqu'à la mort pour la défendre, mais ils y donnaient un contenu, c'est-à-dire la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Ils nous parlaient de la Révolution, des barricades, et un peu comme ça, D'ailleurs, plus tard, quand je partais au maquis, je me disais, tu risques de te faire tuer. Je me voyais un peu comme ces gars qui étaient sur les gavroches, sur les barricades, qui montaient mourir. J'y allais comme ça, avec cet état d'esprit. Et ça, ces gens-là, cet amour de la liberté et tout ça, on fait beaucoup. Il y avait un contenu. Voilà. Alors, au fond, je dis, j'avais pas de conscience politique, mais au fond, il y avait ce que ces enseignants avaient semé, l'amour de la liberté, la fraternité, le partage, le respect, etc. quoi, et l'amour de la patrie. Voilà, alors grosso modo, on en est là. La haine de l'ennemi, le mépris de Pétain et de la collaboration. Alors tout ça se passe, on est dans la Périgueux, c'est la zone non occupée. Donc, comment l'exprimer, tout ça? Alors, je sais que partout dans toutes les manifestations, le chant qui avait remplacé la Marseillaise, parce que tout ça s'était banni, la République avait été assassinée. Quand je dis assassinée, avait été, oui, condamnée par tous les parlementaires, l'ensemble des parlementaires, à l'exception de 80 plus les 72 députés communistes qui eux, avaient été démis. Qui avait été démis de leur mandat. Parce que là, au lieu de la Marseillaise qui était bannie elle aussi, puisqu'évidemment, aux armes citoyens, faut sauver la patrie, le sang impur abreuve nos signaux, le sang impur, il était sur notre territoire. Alors, partout, c'était Maréchal, nous voilà. Et moi, à l'époque, j'avais fait une chanson qui évidemment, était tout le contraire, Maréchal, elle te l'a. Alors, je sais pas, c'est pas très long, mais bon, c'était comment un gamin peut exprimer sa haine du pouvoir et notamment de son chef de l'époque, Pétain. Alors, pour répondre à Maréchal, nous voilà, moi j'avais fait Maréchal Altela, je le répète. Alors, au fond, voilà un peu la chanson brièvement, elle est courte. Maréchal, nous voilà, devant toi le bourreau de la France, tous ceux qui sont des gars, reprendront leur vraie place au combat. Maréchal Altela, tu n'as pu nous ôter l'espérance, la patrie renaîtra, Maréchal, Maréchal Altela. En vain, tu nous répètes, pour nous mieux asservir, Français, l'Europe est faite, Hitler, c'est l'avenir. Mais dans nos cœurs encore libres, la voix de Clemenceau sans cesse nous appelle à sauver le drapeau. Maréchal Altela, tu n'as pu nous ôter l'espérance, la patrie renaîtra, Maréchal, Maréchal Altela. Et ça, je ne peux pas le situer, si tu veux, à une date exacte, mais disons, c'est entre décembre 40 et juin 41. Donc, cette chanson, si tu veux, pendant toute cette période, alors, comment exprimer, comment nos jeunes, enfin, ces jeunes, moi, mes gars du quartier, au foot, où on n'était pas politisés, quoi, sauf en sens l'amour de la patrie. Alors, comment faire pour créer notre haine, notre rejet de tout ça? Alors, il y avait ces chansons, et puis il y avait le chant du départ, le chant du départ où l'Alsace et la Lorraine, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, le chant du départ, c'est la République nous appelle, sachant vaincre, sachant périr. Si tu veux, partout, c'était l'occasion pour nous d'exprimer notre rejet de l'état de fait. Ou chanter la Marseillaise. Et alors, comme à l'époque, quand je jouais au Copo, c'était le club de Paris-Orléans, c'est-à-dire la SNCF aujourd'hui, et donc on voyageait beaucoup, et partout dans les gares, on chantait ça, jamais on a eu de problème. Sauf qu'on y avait ajouté ce que les cheminots nous avaient appris, puisque c'était un club cheminot, il y avait un encadrement de cheminots qui était très sérieux, dont garde un souvenir formidable, et qui nous avait également appris l'international, comment, dans quelles conditions, j'en sais rien, en tout cas ça pouvait être que... Donc on chantait aussi l'international. Et dans les gares, alors que les gares étaient pleines, y compris avant de Colabo, et après, quand les Allemands étaient là, encore pire, eh bien, on n'a jamais eu de problème, mais au moins, on exprimait notre opinion. Ou alors, on allait, quand on allait au cinéma, il y avait toujours les informations, où on passait les discours de Pétain, enfin, les manifestations, etc., où on exaltait le culte du chef, en l'occurrence de Pétain, et aussi de la collaboration. Et là, dans les cinémas, on sifflait, on gueulait à bas les Boches, à bord Pétain, enfin bref, vive de Gaulle, etc. Alors ça a duré pendant un temps, ça, mais pas très longtemps, parce que ça se passait dans le noir. Si bien qu'après, les informations, ils allumaient la lumière et il y avait la maison Poulaga. Enfin, il y avait les flics qui venaient. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus délicat, quoi, hein. Alors, de temps en temps, il y en a bien un qui lâchait le morceau, mais bon, qui jetait un cri. Mais bon, c'était quand même plus difficile. Alors.
Mais quand c'était dans le noir, c'était des manifestations très populaires. Il y avait beaucoup de monde qui sifflait, qui protestait avant que ce soit à la lumière, ou est-ce que c'était marginal?
Je pense que c'était marginal quand même. Hein. C'était, il y a des gens qui le faisaient, mais enfin bon. Je pense que quand on a l'avantage d'être jeune, on mesure pas toujours les conséquences que ça peut avoir. Et puis on n'a pas le poids de responsabilité aussi grande qu'un père de famille qui a 3 gosses ou qui a 2 gosses et qui lui engage non seulement sa vie, mais qui engage la vie de sa famille, quoi. Donc, et puis moi j'étais un peu. J'étais un peu romantique, j'étais un peu, je dirais, avec le recul du temps, tout ce que j'ai fait, c'était un peu farfelu, quoi. Remarque, je ne regrette pas parce que je sens que je le suis encore un peu à 85 ans, alors je pense que c'est pas mal. Voilà, si tu veux, il y avait ça. Alors, évidemment, il y avait également les slogans qu'on pouvait écrire. Alors, comme moi, j'étais plâtrier, eh bien, je me faisais des bâtons de craie, ou alors c'était avec du charbon de bois, parce qu'aujourd'hui, il y a les tags avec la peinture, on la met à l'époque, et puis il fallait pas se faire prendre. Alors, c'était du vite fait bien fait, quoi. Hein. Voilà, et des inscriptions, et voilà. Mais voilà, au fond, quand tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans cette situation, ça me fait penser à l'écureuil qui est dans sa roue, et qui avance, qui tourne comme ça, et qui trouve pas de sortie, quoi, hein. Alors voilà, quoi, c'était, il fallait s'exprimer. Mais on était dans la zone dite libre, où on pouvait s'exprimer encore comme ça, encore que celui qui était très marqué politiquement, eux, les communistes, ils étaient au Sablou, là-bas, hein, ou déjà en camp de concentration, des juifs avaient été arrêtés, bref. Mais ça, je le mesurais pas, je mesurais pas ça. Si tu veux. Alors, donc voilà, toute cette période, c'est un peu l'exaltation, la protestation, le rejet d'un état de fait.
Alors, et quelles inscriptions sur les murs vous mettiez? Vous avez des souvenirs? Qu'est-ce que vous faisiez?
Des croix de Lorraine, vive de Gaulle, à bas les Boches, à mort Pétain, mais c'était du vite fait bien fait. Hein. Une croix de Lorraine, c'est vite torché, mais quand il fallait. Alors bon. Ça mettait plus de temps, donc quand même, on n'était pas complètement fou à aller le faire devant tout le monde, encore que...
La nuit
le soir, oui. Encore qu'il y a des soirs, parce qu'il y avait le couvre-feu aussi. C'est difficile pour les gens d'aujourd'hui d'imaginer ce que ça pouvait être, hein. Non seulement sur le plan des libertés, etc., la presse qui était mise sous le coude, parce que pratiquement également on pourrait dire la radio de Londres, moi j'ai entendu ni l'appel du général de Gaulle, ni l'appel du 10 juin de Jacques Duclos et de Maurice Thorez, ni l'appel de quelques généraux que ce soit. D'abord parce que dans ma rue il y avait un poste de radio, la télévision ça n'existait pas dans toute la rue. Et il y avait un poste de radio, donc, et le poste de radio en question, c'était un cheminot. De temps en temps, il nous invitait et on écoutait la radio, un peu la radio de Londres. Mais si vous voulez, on n'a pas ça. Mais ça se murmure. Si tu veux, tout ça, on sent. Et au fond, on est assez anglophile à cette époque, hein, quand même. En ce sens que c'était un point de résistance. Et qu'après De Gaulle, quelles que soient les opinions, si tu veux, sauf sans doute peut-être les gens qui étaient plus marqués politiquement, mais De Gaulle, c'était aussi un point de résistance, un point de ralliement, un point où on pouvait se référer dans la lutte contre Pétain, contre... voilà. Alors moi, j'ai beaucoup écrit Vive de Gaulle. Après, évidemment, c'est une autre paire de manches. On n'avait pas les mêmes visions encore que du point de vue de l'indépendance nationale. Je pense qu'on s'est retrouvé assez. Et si Sarkozy était comme ça aujourd'hui, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est un peu...
Malgré le manque d'éducation politique que vous décrivez quand vous êtes adolescent et jeune adulte, comment avez-vous ressenti les événements de 1934, la manifestation des Ligues à Paris qui menaçait la République et l'arrivée du Front populaire en 1936 ?
Rien. Sauf qu'en 1936, j'ai un souvenir d'avoir assisté. Mon père m'avait amené à une réunion qui avait lieu à proximité dans le quartier, chez nous, où il avait été question du Front populaire. Et c'était justement un des instituteurs qui était sans doute candidat au municipal ou des choses comme ça, qui en avait parlé. Mais si tu veux, du point de vue, quand je dis que je connaissais pas grand-chose, j'avais quelques points de repère, c'est classe ouvrière, parti communiste, un nom, Maurice Thorez, mais ça n'allait pas plus loin. Hein. Dire que ça peut pas décider du sort de quelqu'un, ça. Non. J'étais neuf, quoi. J'étais tout neuf, quoi. Voilà. Dans toute cette période. Voilà. Alors, évidemment, on rêve d'en découdre pendant toute cette période, mais comment faire? Et puis ça prend corps ensuite quand le 11 novembre 1942 les Allemands rentrent viennent ici et qu'ils paradent et qu'ils sont partout, alors là ça devient plus concret. Et alors évidemment, mais là c'est toujours pareil, est-ce que on mesure pour, enfin les petits gars comme moi, est-ce qu'on mesurait? Même pas. Nous on était capable d'insulter les Allemands comme ça, de leur entrer dans le chou pour les faire descendre du trottoir. Des fois, il fallait se sauver en courant, vite fait, bien fait. Hein. Mais c'est pour te dire, mais c'était des choses... évidemment, c'est fou, quoi, comme truc. Moi, je me rappelle, quand il y avait très peu de distractions, et pendant de courtes périodes, il y avait encore, sur les boulevards, qui n'était pas comme foutu comme c'est aujourd'hui, il y avait parfois les autoscotteurs, des stands de tir. Et là, quand on voyait, moi je me rappelle avec les jeunes du Copo, les jeunes du foot, quand on voyait qu'on avait fini, qu'on allait faire boulevard, parce qu'à l'époque, la grande distraction des jeunes périgourdins, c'était de monter, de descendre les boulevards. C'est là où toutes les rencontres amoureuses se faisaient, là, hein. Des jeunes périgourdins, c'était le rendez-vous traditionnel des jeunes. Et là, quand on voyait les Allemands sur les autoscotters, alors vite, on sautait et on leur rentrait dans le chou pour éviter qu'ils puissent s'amuser. C'était notre façon de dire à nous, on veut pas de vous là. S'il y avait un stand de tir, il y avait beaucoup de stands de tir où il y avait un filet d'eau comme ça, une petite balle de ping-pong et tout ça qui faisait que ça montait, que ça descendait. S'il y avait des nazis qui prenaient le fusil, t'es tranquille, les fusils libres, on sautait dessus et là, on tirait dans la balle pour empêcher qu'ils puissent la toucher. Voilà, tout ça pour te dire, voilà le niveau, quoi. Hein, c'était l'expression de, mais comment, qu'est-ce qu'on savait faire? On ne savait pas faire autre chose que de dire on ne veut pas de vous, on vous veut pas. Pour te dire à quel point j'étais hors, totalement inconscient des choses, c'est que je me rappelle un jour dans la rue Taillefer, on faisait un chantier avec mon célèbre patron, là, de la conscience ouvrière. Et là, on était au premier étage et on était en train de faire une gâchée et dans la rue passe Decheleu, un costume, la mitraillette et tout le truc. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais une grosse boule de plâtre et paf, ça la bassarde, ça éclate à leurs pieds. Évidemment, tout ça, ça hurle, les types gueulent, ils pointent les mitraillettes et tout le business. Moi, je me fais bien engueuler en disant, mais tu es fou, tu vas nous faire tous tuer, enfin bref. Mais c'est pour te dire, quoi. Vraiment, quoi, c'était vraiment c'était un gamin, quoi, c'était, voilà. Alors j'ai été comme ça, C'est-à-dire, je cache jamais rien, je fonce. D'ailleurs, ça a toujours été ma règle. J'ai toujours marché comme ça. Voilà.
Mais cela, c'est des formes de résistance, déjà.
Oui, mais c'est notre façon à nous. Comment faire, si tu veux? Alors, bon, là, j'avais deux copains, moi. On était comme des frères. Alors, quand je te dis que c'était une ambiance de partage, on était tous fauchés. On avait une cravate. Il y avait une cravate. C'était la cravate des trois. Si tu veux, quand un voulait faire le beau, il prenait la cravate. Voilà, un s'appelait René et l'autre s'appelait Pierrot. Ça, c'était mes deux frères. D'ailleurs, celui qui s'appelle René, il s'est marié avec ma sœur, et l'autre, le pauvre, il s'est tué à moto. Mais, si tu veux, voilà, on parlait que de ça. Alors, ils avaient un an de plus que moi. Et quand il y aura les camps de jeunesse, parce que tu sais, tous les ans, il y avait une classe qui partait au camp de jeunesse, c'était certes par l'armée, mais il y avait le costume et tout ça, les saluts au drapeau, les maréchals nous voilà, enfin, essayer de conditionner les gars pour qu'ils acceptent la collaboration et le régime de Pétain, ça n'a pas souvent marché, mais enfin, bref, c'était comme ça. Et on se disait, on partira pas. Bon, et puis, ce que je savais pas, c'est que le René en question, qui est devenu mon beau-frère, c'était le fils de André Toulza, qui avait des candidats du Front Populaire du Parti Communiste dans le Sarladais. Et tout ça, moi j'allais chez eux et tout ça, mais jamais ça parlait politique. Et lui, ce René, là, mon beau-frère, m'avait dit, écoute René, si tu veux, avec Pierrot, l'AS monte des groupes de trois, si tu veux, on en fait un, je serai le responsable, mais on n'en parle plus jamais. On n'en a plus jamais parlé, si tu veux. Alors, progressivement, comme moi, bon, il fréquentait ma sœur, et moi, et puis on jouait au foot ensemble. Donc, j'étais souvent chez le père Soulza, et quand ils sont partis au camp de jeunesse, moi, il m'a donné les journaux clandestins. C'était déjà notre Franc Tireur, Combat, Libération, Force Unie de la Jeunesse Patriotique, qui était le journal des jeunesses communistes, gaullistes, chrétiennes, etc. Et donc, je distribuais, j'avais ces journées, il m'en a donné en septembre 43, et plus ensuite, vers la fin de l'année. Seulement, l'inconvénient avec moi, c'est que, toujours le même principe, je joue au foot, et en plus, j'ai un autre copain avec qui je joue au foot, parce que les deux dont je t'ai parlé avaient un an de plus, donc ils étaient dans l'équipe suivante. Mais moi, je jouais avec Oppo, avec un copain qui s'appelait Roger. Et lui, avec lui, on distribuait les journaux clandestins aux jeunes du Copo qui jouaient avec nous. Moi, dans le quartier, pareil. C'est-à-dire, de clandestins. C'était... Voilà. Alors, toujours avec le recul, je me dis, t'étais complètement fada. Mais voilà, c'était ma façon à moi de me manifester. Voilà. Alors ça, on a fait ça comme ça, alors voilà. Mais ça, c'est toujours pareil. Le temps passe, et je m'étais juré, moi par contre, alors René et Pierrot sont partis au camp de jeunesse, parce que le père Toulza leur avait dit, non, vous risquez rien, donc vous partez, après on verra autour. Mais moi, mon tour, c'est que moi, qui était un an plus jeune, il arrive un moment où je suis appelé au camp de jeunesse. Et moi, le camp de jeunesse, j'ai juré que j'irai pas. Alors, à eux, je les avais bassinés en disant, alors, vous ne partez pas, on va dans les bois, on va au maquis, etc. Bon, et puis, bon, ils ont été convaincus qu'ils ne risquaient pas grand-chose en étant au camp de jeunesse, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais pour moi, c'était inconcevable. J'avais juré, j'irai pas. Oui, mais attends, rentrer en résistance, c'est pas aller à la NPL. Alors, comme je suis un peu fou, comme ça, quoi, j'en parle à tout le monde pour essayer de trouver une cheville. Mais même si j'ai rencontré des gens qui étaient un peu au courant, ils devaient avoir, en disant le minot qui parle partout, là, c'est pas, là, on va se faire cravater. Donc, voilà, c'est. Je cherche. Et un beau jour, il y a une voisine. Ça devrait se situer dans la mi-février, par là, 44, il y a une voisine qui vient trouver ma mère en disant, dites à votre René que c'est classé, c'est réglé, j'ai un neveu qui s'occupe de lui, il viendra le chercher pour aller à Saint-Paul-la-Roche. Moi, je savais que ça existait, mais comme je crois ce que je vois, je vois, on ne vient pas me chercher tout de suite, donc Donc je continuais à aller au boulot. Mais entre-temps, j'avais changé de patron. Parce qu'il faut te dire que ce qu'est la cité administrative à Périgueux aujourd'hui, c'était une caserne. Donc on réaménageait toute la caserne pour en faire ce qui est devenu la cité administrative avec des bureaux. Donc là, on m'avait offert de... Et comme je savais que j'allais partir d'une façon ou d'une autre, il me fallait du fric, plus qu'un état apprenti chez mon artisan patron, dont je garde un souvenir exceptionnel. Et puis là, je travaille, donc là, je gagne des rhums, mais je travaille avec un gars qui, lui... Mais j'ignore ce qu'il est, hein. Donc, quand j'arrive à la maison à midi un jour, ma mère me dit, tu pars à 4 heures au maquis. Il y a le gendre de Madame Quinel, Michel, qui est de Saint-Paul-la-Roche, qui vient te chercher. Il sera à 4 heures derrière Monoprix. Tu prendras le car de Saint-Paul-la-Roche, il y sera. Bien, qu'est-ce que je fais, moi? Je fonce vite sur le chantier. Comme on était aux pièces, les gars, ils ne débauchaient pas comme ça. Et je vais voir le type pour qui je travaillais là. Je lui dis, donne ma maison, je pars au marquis tout à l'heure. Ah ben, il dit, mais écoute, tu peux bien penser que je n'ai pas les ronds sur moi, je les donnerai à ta mère. Il a habité le quartier. Bien, je vais chez le coiffeur, j'ai dit, coupe-moi les cheveux, je pars au maquis tout à l'heure. Donc, secret de Polichinelle. Mais où c'est plus amusant?
C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.